Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un vrai plaisir pour nos autrices de voir que vous êtes venus aussi nombreux pour assister à ce qui est pour nous la première rencontre de cette 40e édition de la Foire du Livre de Brive. On va commencer avec un thème qui n'était pas tout à fait tranché, qui s'est intitulé La cause des femmes, mais qu'on va peut-être renommer à bras-le-corps ou la question du désir. Dans un parcours de femmes. Je vous les présente et puis elles vont nous parler un tout petit peu de leur livre avant qu'on commence à discuter de ces questions-là et puis on va voir aussi où ça nous mène. Alors, tout à fait à l'opposé de moi, en bleu, Caroline Laurent, Ce que nous désirons le plus, publié aux éditions des Escales. À côté de vous, Emma Becker, L'inconduite, publié aux éditions Albin Michel. Moi, j'ai pas le rabat qui est très joli. Et puis Marion Roucheux, Les chères impatientes, publiée chez Belfond. Marion, c'est peut-être un peu vache de commencer par vous, mais quand même, ça va.
Allez-y, je suis prête à tout.
Parce que c'est un premier roman, oui. Ce qui n'est pas le cas de Caroline et d'Emma. C'est un premier roman, Les chères impatientes. C'est l'histoire d'une femme qui, un jour, son mari la retrouve debout sur la rambarde de l'appartement avec 4 étages de vide sous elle et son bébé dans les bras, et elle n'a aucun souvenir de ça. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre héroïne?
Oui, vous démarrez un peu fort avec la partie un peu sombre de l'histoire. C'est vrai que c'est au début, mais ce qu'il arrive, je crois, à cette femme, c'est la difficulté de se retrouver à la fois mère et à la fois femme, de savoir où se situe son désir et son corps dans cette nouvelle, dans ce nouvel équilibre, dans cette nouvelle conjonction des choses, et le besoin absolu de se retrouver en dehors de ce qu'on a pu lui donner comme identité. Et ça va passer par un rapport au sexe et au corps très charnel, très addictif. Elle rentre dans une espèce de quête de désir au début qu'on peut comprendre. On peut comprendre que ça peut être peut-être même la quête de quelqu'un ou la quête d'un amour. Mais finalement, c'est vraiment un besoin de jouir pour essayer de se retrouver elle-même à travers cet abandon total et absolu.
Alors, c'est une femme qui est médecin et qui souffre. Donc, elle a un petit garçon de 6 mois et qui manifestement ne se remet pas de cette grossesse. De cette naissance plutôt. Ça peut s'appeler une psychose du postpartum en langage médical. Elle est médecin et pour autant vous ne qualifiez pas médicalement son état, c'est voulu?
Oui, je trouvais pas ça forcément très intéressant de mettre le diagnostic. On précise qu'elle a effectivement une dépression du postpartum, donc c'est le terme que m'ont donné les psychiatres quand je me suis un peu penchée sur la question. On sait qu'en fait la maternité, c'est tout ce que tous les psychiatres nous disent, est un moment de crise identitaire pour toutes les femmes. Ça peut être un trauma à la fois positif mais aussi négatif. Il y a à peu près une femme sur 3 aujourd'hui qui fait une dépression au moment de sa grossesse ou de son postpartum, et le suicide est la deuxième cause de mortalité des jeunes mères dans l'année qui suit l'arrivée de leur bébé. Tout ça pour dire que ces chiffres, quand je les ai vus, je me suis dit que j'avais là mon sujet sur la difficulté d'être mère, sur la difficulté de s'y retrouver. Et j'avais envie d'aller étudier, d'aller creuser ce sujet de qui je suis une fois que je suis mère, qu'est-ce que ça projette sur moi et à quoi ressemble mon désir là-dedans et à quoi sert mon corps aussi. Ce corps qui a porté la vie et qui est sans arrêt sous la contrainte de l'autre, donc qui est épuisé par l'autre, le besoin de l'autre, donc l'enfant en l'occurrence, mais qui du coup a besoin peut-être de trouver une autre forme d'abandon pour retrouver son féminin.
Alors c'est un sujet qu'on retrouve en tout cas de façon assez proche, même si traité différemment, dans le livre d'Emma Becker, L'inconduite. Votre héroïne aussi a un petit garçon. Elle est dans un état. Est-ce que vous diriez qu'elle se trouve un peu dans la situation de l'héroïne de Marion?
Non, j'ai jamais pensé à poser les mots de dépression postpartum, même si probablement c'est quelque chose que j'aurais pu initier. Peut-être que j'avais pas envie d'y penser comme ça. Il me semblait en tout cas que c'était effectivement une crise identitaire très forte qui perturbait la quête que j'avais déjà de moi-même avant ce livre-là. C'est-à-dire que vraiment la maternité rebattait complètement les cartes et j'étais encore plus perdue qu'avant. Peut-être que cliniquement ça peut porter un nom, mais j'ai choisi peut-être consciemment ou inconsciemment de ne pas l'appeler comme ça.
Alors, dites-nous un petit peu ce qui arrive à Emma, qui, donc votre héroïne porte votre nom.
Ben, en fait, c'est tout simplement un roman autour des trois dernières années que j'ai passées à Berlin, où je finissais d'écrire mon livre précédent, qui était donc qui s'appelait La Maison et qui était sur une maison close à Berlin dans laquelle j'ai travaillé pendant 2-3 ans. Et donc je me retrouve mère et j'ai tout à coup une nouvelle charge qui me tombe sur les épaules et dont je ne sais absolument pas quoi faire. Je sens bien qu'on attend quelque chose de moi qui est de l'ordre d'une dévotion complète à ce nouvel état, un complet oubli de moi-même. Ce sont des injonctions que je sens venir de la société dans laquelle j'évolue, des femmes et des hommes autour de moi. Et il y a une volonté assez cruciale, enfin en tout qui m'occupe beaucoup de survivre à ce nouvel état. Et quand je parle de survivre à ce nouvel état, je veux dire par là se réinventer soi-même, réinventer le couple hein, au milieu duquel apparaît un enfant et qui évidemment est pris d'une forme de léthargie sexuelle et affective, et toujours cette recherche de qui je suis en fait et qu'est-ce que je désire quand je crois désirer, qui est du coup qui devient un espèce de besoin qui touche à la survie la plus élémentaire, me sentir de nouveau femme vivante, désirable, enfin autre chose que ce corps que j'ai l'impression d'être complètement depuis ma grossesse et mon accouchement.
Vous dites, vous parlez du déchirement d'être mère et de n'être pas comblée pour autant. Est-ce que ça répond, enfin, quelles étaient les idées qu'on vous avait inculquées ou que vous étiez fabriquées pour penser qu'un enfant était la solution ou comblait un trou, enfin était la fin de l'histoire en fait.
J'y pensais pas comme une fin ni comme à une solution, mais c'est vrai qu'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants sans trop savoir pourquoi, parce que étant quand même assez préoccupée par toutes les dynamiques que je sens se développer en moi, en fait j'aurais pu vivre une vie très heureuse en ne me préoccupant que de moi-même, c'est clair, mais je pense que j'ai grandi dans un monde dans lequel on apprend aux petites filles à avoir ce besoin d'avoir des enfants, de reproduire quelque chose, de passer un certain nombre de savoir. Je crois, enfin en tout cas j'ai senti qu'il aurait fallu que je me sente complétée par cet état-là, et plus que, enfin, et loin de me sentir complétée, je me suis sentie encore plus morcelée. Et j'ai essayé tout simplement de mettre des mots là-dessus, mais la maternité est un thème qui n'est pas vraiment exploité de manière frontale dans ce livre-là. C'est plutôt quelque chose qu'on sent, je crois, entre les lignes, en filigrane, et qui détermine énormément de choses qui se passent dans ce livre.
En fait, toutes les deux, vous avez... on va venir à Caroline, hein, bien sûr, mais Caroline, il n'y a pas de la question de l'enfant, il y a la question de la création, mais autrement, et qu'on retrouve aussi dans vos livres à toutes les deux, mais ça sera, on en discutera toutes les trois. Le point commun quand même à vos deux livres, le contexte, c'est une maternité récente, mais toutes les deux, vous épargnez beaucoup, enfin, il y a beaucoup de pudeur dans la relation. L'enfant est un motif, mais n'est pas un sujet dans vos livres, c'est quelque chose de très... très maternant, finalement.
Moi, j'ai eu l'impression que l'enfance était justement le prétexte au retour sur soi, aussi bien dans l'écriture que dans l'histoire qu'on construit. J'aimais cette idée, comme dit Emma, de quelque chose qui intervient à ce moment-là et qui change la trajectoire. Alors, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, qu'on le vit bien ou qu'on le vit mal. On le vit, tout simplement, mais ça change beaucoup de choses, ça rebat beaucoup de cartes. Et comme tu le disais, ça rebat aussi les cartes du couple. Mais moi, j'avais envie de creuser ce rapport au désir et au corps. Je trouvais ça marrant, tu disais tout à l'heure, Emma, que justement, la maternité, ça ne faisait de toi qu'un corps. Moi, j'ai essayé de tisser cette histoire en me disant, justement, ce corps lui appartient, elle essaye de se le réapproprier.
Qu'on me rende mon corps d'avant, je n'ai jamais voulu de ce corps de mère.
Voilà, tout est dit. C'était l'idée de se dire comment je reviens à l'essentiel, à ce que je suis vraiment, comment je me recroqueville sur moi pour peut-être mieux renaître derrière. J'avais l'impression que c'était une quête qui pouvait passer par le plaisir sexuel et la confrontation au corps de l'autre.
Alors, faites-moi penser pour tout à l'heure à vous faire parler de cette phrase que la mère de votre héroïne dit à une amie quand votre héroïne est petite. « Je ne pourrai jamais lui apporter tout l'amour dont elle a besoin. » On y reviendra. Vous parlez du corps, de se recroqueviller, de revenir au corps pour ensuite pouvoir repartir. Là, on accueille Caroline sur ce sujet. Caroline, donc, ce que nous désirons le plus, Là, c'est un pur récit. Oui. Voilà, c'est je, c'est vous, c'est votre histoire à partir d'un énorme choc qui a été un choc pour nous tous il y a quelques mois de cela et qui est à l'origine du livre.
Oui, ce livre, c'est l'histoire d'un effondrement et d'une renaissance. Et c'est une histoire liée intrinsèquement à la littérature. Moi, j'ai commencé à écrire dans des circonstances tout à fait atypiques. C'était en 2017, avec un premier roman, Et soudain la liberté, coécrit avec une femme, Evelyne Pizier, dont j'étais initialement l'éditrice. Cette femme est décédée après 6 mois de collaboration sur son manuscrit. Et son mari, qui était Olivier Duhamel, est devenu mon ami et mon interlocuteur. Et c'est avec lui que j'ai été au bout de ce que m'avait demandé cette femme, Evelyne, à savoir terminer le livre, alors qu'elle était morte. Donc terminer le livre pour une amie, en hommage à cette amitié-là. Et c'était une histoire à la fois inédite, folle, belle. Et puis 5 ans après, cette histoire inédite, folle et belle est devenue une histoire douloureuse et extrêmement perturbante, puisque j'ai découvert, sans doute en même temps que vous, dans la presse et à travers le livre de Camille Kouchner, que ces gens-là n'étaient pas ceux que j'imaginais être, puisqu'il y avait inceste, puisqu'il y avait drame, puisqu'il y avait secret de famille. Et cette catastrophe, c'est ainsi que je l'appelle dans le livre, n'était pas la mienne, au sens où ce n'est pas moi la victime, évidemment, c'est pas moi qui ai subi ces abus-là. Néanmoins, c'était une catastrophe qui me percutait de façon oblique et qui m'atteignait dans ce que j'ai de plus intime, à savoir l'écriture. Parce que mon entrée en littérature, je l'avais faite par cette amitié, par cette confiance, et que finalement, d'un coup, je voyais que tout ça avait été le fruit d'une trahison, ou en tout cas de silence très lourd, très pesant. Et il a fallu pour moi retrouver effectivement ce corps que j'avais perdu par le chagrin. C'est un peu l'autopsie d'un chagrin, ce texte. C'est vraiment comment un événement qui vient comme ça vous percuter de plein fouet, vous coupe les jambes, vous coupe les bras, vous coupe la sève, vous coupe de tout, vous coupe des autres avant toute chose. Et ma définition de l'être, ça passe par l'écriture, et je n'avais même plus accès à l'écriture, je n'arrivais plus à écrire, j'étais en panne sèche, c'était un désert. Et donc le livre raconte aussi comment une femme qui se définit par l'écriture et qui n'arrive plus à écrire risque de basculer dans la folie jusqu'au moment où le corps se remettant en marche, et bien elle retrouve aussi la fluidité de la plume.
Alors, cette catastrophe, elle vous amène à vous poser des questions qui sont des questions humanistes très, très profondes. Est-ce qu'on peut être complice de quelque chose qu'on ignore? C'est une question aussi qui draine l'histoire de France récente avec la question de la collaboration, etc., la guerre d'Algérie. Bon, vous vous posez, elle est vertigineuse, cette question. Est-ce que vous avez pu y répondre pour votre cas?
D'une certaine manière, j'ai compris qu'il fallait suspendre les réponses et que tout allait résider pour moi dans la cohabitation avec les questions et les interrogations, qu'il allait falloir apprendre à vivre avec des zones d'ombre, des silences, encore une fois, puisque cette amie si chère à qui je devais tant de choses, Evelyne Pizier, eh bien, n'est plus là aujourd'hui pour me répondre. Donc, les morts sont des questions et il faut vivre avec ces questions. En revanche, c'est quelque chose de presque plus littéraire encore qui m'a saisi avec cette histoire-là, au sens où moi qui suis éditrice, qui suis lectrice bien sûr, qui suis autrice aussi, j'ai eu le sentiment à un moment de ne pas avoir su lire le monde qui m'entourait et ces gens qui m'entouraient. Donc ma culpabilité, d'une certaine manière, c'est de ne pas avoir su lire correctement. Et c'est ça aussi qui a mis en mouvement en moi cette réflexion sur l'écriture qui, évidemment, irrigue ce récit.
On vient de parler avec toutes, d'ailleurs, de la question du désir, mais dans votre livre, la question du désir, elle est aussi associée à la question de l'amour, et l'amour au sens grec. Alors justement, le philia ou eros, plutôt philia chez vous, et à ce à quoi ça correspond aussi dans la construction d'un individu.
Oui, parce que je pense qu'avec cette amie qui avait 75 ans, quand moi j'en avais 28, il y avait forcément une part d'admiration. Il y avait cette dimension-là. Donc, que faisons-nous des modèles lorsque les modèles s'effondrent? Que faisons-nous de nos rêves aussi de liberté? Pour moi, cette femme incarnait ça, la liberté, lorsqu'on s'aperçoit que sans doute elle était emmurée dans les barreaux d'une prison. Donc, c'était toutes ces réflexions qui m'agitaient. Et la chance, pour moi, c'est d'avoir pu en fait transformer ces doutes et ces angoisses en un livre qui, lui, chemine vers la lumière.
Vous dites, alors, c'est vraiment le thème commun à toutes les trois, vous dites à un moment du livre, écrire le corps est une épreuve. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça n'a pas l'air d'être une épreuve quand on vous voit rayonnante, là, ça vous fait sourire ?
C'est vrai, ça veut dire que j'ai pu traverser ce temps de la sidération et de la peine. Et je peux sourire parce que le livre aujourd'hui existe, sans doute. Écrire le corps, c'est toujours explorer un territoire miné, un terrain miné. Il y a quelque chose, lorsqu'on est une femme, une autrice, et qu'on veut s'emparer de ces questions de la chair, de la sexualité, du désir, sous toutes ses formes, qui semble nous résister un petit peu, alors qu'en même temps, paradoxalement, l'intime est plutôt associé au féminin, alors que la littérature masculine irait vers le grand dehors, comme on dit. Donc, il y a tout un tas de contradictions comme ça qui, moi, m'intéressaient. Mais je pense que c'est aussi, tout simplement, arriver à s'affranchir du regard des autres. Une femme qui écrit son désir, c'est intéressant d'en parler avec vous, une femme qui écrit son désir, qui le revendique, qui l'assume, qui l'affirme, est une femme dangereuse. Il y a quelque chose de menaçant quand la femme s'approprie pleinement son corps et peut outrepasser, en fait, le désir de l'homme et les attentes de l'homme. Donc, moi, j'aime bien, en fait, le fait que la littérature soit une mise en péril, qu'elle nous amène du côté du danger. Et c'est ce que dit Annie Ernaux, que je cite un moment, mais ce besoin que j'ai d'écrire quelque chose de dangereux pour moi, coûte que coûte, comme une porte de cave qui s'ouvre. Voilà, c'est ce qu'elle dit, Annie Ernaux. Quelque chose de dangereux pour soi, mais parce que c'est dans ce moment de vertige, sur cette ligne de crête, qu'on se sent vivant, sans doute. Et on a envie aussi de ça. Donc c'était un petit peu ce qui s'est passé pour moi.
Justement, il y a une autre partie de la citation, on y reviendra après que Marion et Emma auront répondu à cette question, justement. Est-ce que l'écriture du corps est une épreuve ? Et surtout, on écrit le corps pour dire quoi ?
Alors, moi, j'ai eu l'impression que c'était, au contraire, la chose la plus facile à écrire. Je vis les choses vraiment à travers mon corps, à travers ma chair, d'une façon très, très émotionnelle, très charnelle. Et du coup, l'écriture et toute la partie de cette écriture-là dans ce livre a été la plus évidente pour moi. C'était comme respirer, c'était juste remettre sur le papier ce que mon corps traversait, c'était revenir à quelque chose de très primal, de très instinctif. J'ai vraiment eu l'impression d'écrire avec mes tripes et que toute cette partie, justement, où j'allais interroger mon désir et mon plaisir, ça me permettait une liberté absolue et qu'écrire là-dessus, ça me permettait d'aller encore plus loin que dans la vraie vie, ça me permettait d'aller analyser ou tester des scénarios que j'aurais peut-être envie de vivre, mais qui sont peut-être dangereux, effectivement, dans la vraie vie. Du coup, pour moi, l'écriture du corps, c'était vraiment mon corps parle, je l'écoute et ça m'octroie un espace de liberté incomparable que je ne trouve nulle part ailleurs.
Dit-elle en souriant. Emma ?
Personnellement, moi, c'est ce que je préfère, l'écriture du corps, l'écriture des réactions du corps. Et puis, on écrit toujours sur plusieurs corps. On écrit, bien sûr, sur son intériorité. Moi, je pense avoir beaucoup écrit sur le corps qu'on met en scène aussi, qu'on offre au désir de l'autre et dont on déplace les membres pour en offrir le reflet le plus désirable, le plus conforme aux projections que les hommes se font des femmes et de ce qu'ils ont envie de voir. Est-ce que c'est dangereux ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu envie de croire qu'effectivement, une femme qui écrit sur son corps et son plaisir est dangereuse, mais pour qui ? Pour elle ? Je ne suis pas sûre, parce que je crois qu'écrire sur le plaisir et sur le désir, quand on est une femme, c'est une libération, parce qu'enfin, c'est la chance d'y comprendre quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le vis. Après, je traverse des moments où je me dis, c'est dangereux, oui, peut-être, parce que, est-ce que ça met les hommes en danger ? Est-ce que c'est vraiment ça, le problème ? Est-ce que ça les met en danger ? Ou est-ce que, finalement, ça les intéresse pas ? Moi, je me demande, finalement, ce qui les intéresse, est-ce que c'est pas plutôt la projection, c'est l'idée qui se font, finalement, d'une femme qui désire et du corps d'une femme qui désire ? Je suis pas sûre que ça les intéresse tant que ça. Peut-être que ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Je crois que... Je sais pas. Là, aujourd'hui, je traverse un moment de désespoir où je me dis que peut-être ça ne les intéresse pas et que finalement, ce qu'il y a juste de drôle et de rafraîchissant dans une femme qui parle de son corps, c'est peut-être le vocabulaire qu'elle s'autorise à utiliser et peut-être cette impression qu'elle donne d'empiéter sur un thème qui est traditionnellement assez masculin, dans lequel les hommes se retrouvent beaucoup moins enfermés parce que, comme tu le disais, le regard de l'homme est un regard universel sur le monde, alors que la littérature féminine ne parle que d'une toute petite partie du monde. Donc je ne sais pas si c'est dangereux. Moi, en tout cas, je sais que ça me fait du bien et que j'espère qu'en même temps, ça fait du bien aux gens qui me lisent. Mais c'est ma seule présomption.
C'est pas mal déjà.
Oui, oui, oui. Non.
Alors chez vous, Emma, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot du souvenir. C'est un motif, un pattern dans votre livre. Vous dites, j'ai trois citations, hein. Je ne comprends pas que le souvenir... Je ne passe pas mon temps quand j'anime des rencontres à citer, hein, mais il se trouve que alors vous avez des paf, il y a des espèces de phrases qui ouvrent tout. Je ne comprends pas que le souvenir du plaisir ne puisse être que ça, qu'un souvenir. Vous dites aussi le bonheur qui ne se saisit que dans les souvenirs. Et puis encore, je ne vis que pour me faire des souvenirs, apparemment. Qu'est-ce que c'est le rapport au réel et au présent et...
Bah, je ne sais pas trop. Je crois que les livres, c'est un petit peu des espèces de petits ex-voto qu'on dresse pour se souvenir, soit pour se souvenir des choses qu'on a aimées et qui peut-être sont passées trop vite et qu'on n'a pas eu le temps de suffisamment apprécier, ou alors peut-être des événements sur lesquels on avait l'impression de ne pas avoir suffisamment de marge de manœuvre ou de contrôle. Et peut-être réécrire ces souvenirs-là vous permet d'avoir dessus un contrôle qui est différent. Et je crois que ça permet aussi tout simplement de transformer comme ça les gens qui traversent notre existence en personnages et de les rendre de ce fait immortels. Alors, soit de les rendre immortels, soit de les anéantir. C'est l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, même en anéantissant quelqu'un, quelque part, on le fixe comme ça dans une sorte de marbre. Je crois qu'il y a... je suis quelqu'un d'assez sentimental, donc je suis très, très attachée aux petites images comme ça que je collectionne depuis le début de mon existence et qui, quand je les feuillette comme ça, me font me dire c'est quand même incroyable le simple fait d'être vivant et d'avoir comme ça toute une banque d'images qu'on peut caresser le soir dans son lit. Enfin, je sais pas, c'est de la gourmandise, je pense.
C'est pas du tout un plateau triste. En plus, votre livre est très drôle, par ailleurs.
Mais merci, parce que c'est vrai que je suis sinistre, là, aujourd'hui.
Non,
mais normalement, je suis assez drôle.
Non, pas du tout. Alors, d'accord. Non, mais pas du tout. Et en plus, le livre est effectivement très drôle. Mais je vous écoute, là, toutes les trois, parler du désir et surtout beaucoup du corps. Et là, c'est là que l'animatrice, elle a pris son train un peu tôt et elle a paumé sa question.
Souvenir.
Non. Alors, on va passer à autre chose. je suis désolée. Non, je suis désolée, vraiment, ça n'arrive pas souvent. Justement, Caroline, Marion, je suis perturbée. On va revenir à cette question. Donc, oui, parce qu'en fait, vous parlez du désir, mais le désir tel que les femmes que vous êtes développent et épanouissent dans chacune de votre livre, il est toujours lié à une part de représentation et donc de fantasme. Il y a beaucoup de chair, de charnel, de sensualité dans vos livres, de sexualité aussi, un peu moins chez vous, Caroline, mais beaucoup de sensualité aussi. Mais il y a aussi beaucoup de mots et beaucoup de cette représentation du fantasme, au sens où c'est aussi l'idée que vous vous faites de votre désir. Qu'est-ce qui prime ? Est-ce que vraiment vous parlez du corps, ou est-ce que vous parlez du corps tel que vous imaginez, tel que vous l'imaginez ? C'était ça la question. Ça y est. Merci Emma.
Bah, du coup, j'y réponds, ça me fait plaisir. je pense que la question du... Du coup, là, c'est moi qui ai un bug.
Quelle est la part du corps et de l'idée
et
que vous faites
et voilà, l'idée qu'on se fait du corps. Ce que j'ai aimé justement dans ce texte, enfin c'est pour ça que j'ai aimé l'écrire, c'est qu'il y avait, je pensais au début écrire l'histoire d'une passion. J'avais envie de raconter cette femme qui renaît elle-même à travers le corps de l'autre et qui du coup lui permet de découvrir son propre corps. Mais plus j'avançais dans l'histoire, plus je me rendais compte que l'autre n'existait pas, qu'il était un prétexte, un miroir à projection. Et qu'à travers son désir pour l'autre et ses fantasmes pour lui, elle se découvrait elle-même. Mais dans cette histoire, cet homme, elle le voit une seule fois. Ils font l'amour une fois. Et elle devient folle et aliénée à l'idée de se souvenir qu'elle retourne visiter, comme disait Emma tout à l'heure, qu'elle va feuilleter comme ça, qu'elle va déployer en elle-même. Et petit à petit, elle va devenir... un peu la prisonnière de cette nouvelle cage de plaisir et de désir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle ne ressent pas le besoin de revoir cet homme, parce qu'en fait, elle auto-nourrit ce désir destructeur. Et je pense qu'elle a conscience qu'y retourner n'apporterait rien de plus fort que ce qu'elle peut déjà souffrir elle-même.
Ce qui correspond, Caroline, à vous parlez d'érotisme dans l'écriture. Qu'est-ce que ça... C'est l'acte d'écrire ou est-ce que c'est le dévoilement de l'écriture qui est érotique ?
C'est le mouvement. Je pense qu'il y a quelque chose, pour moi, d'essentiel. C'est le mouvement. Alors, j'en parle aussi à travers du corps qui danse, parce que ça aussi, c'est une part de moi importante, du corps qui marche ou qui se remet en marche. Mais quelque chose d'érotique, puisqu'il y a une dimension de plaisir du texte, évidemment, qui est très forte, c'est-à-dire que le simple fait de travailler le langage comme on malaxerait une glaise pour en façonner, la façonner à notre guise, a quelque chose d'effectivement assez sensuel, en fait. Et puis, on parle de corps, on parle de mots, mais est-ce qu'on peut séparer les deux ? Évidemment que non, c'est la même matière qui fusionne et puis qui se transforme, qui se métamorphose. Donc, moi, j'ai la sensation que l'écriture peut nous donner une espèce de jubilation, de jouissance, à nul autre pareil, dans le sens où elle permet de rassembler le corps, la chair et l'esprit de manière extraordinaire.
Et dans votre livre, il y a un personnage qui s'invite, qui n'était pas prévu, qui n'avait rien à voir avec la catastrophe que vous nommez ainsi, et finalement qui arrive de façon lancinante, un peu doucement. Et la catastrophe, en fait, accouche d'un drame, la grande tragédie que vous avez traversée à 14 ans, oui. Et qui fait que plus rien n'aura jamais été pareil ensuite. Oui. C'est la mort de votre papa.
Oui. Oui, en fait, ce livre est un livre du deuil. La catastrophe de janvier, dont je viens de vous parler, donc les révélations de cette affaire, etc., n'ont eu un tel effet sur moi, sans doute, que parce que c'est venu chercher en moi des choses très enfouies, très profondes, et qu'à travers la deuxième perte de cet ami, et puis le fait que cet homme, encore une fois, qui était si bon pour moi, si enveloppant, et je lâche le mot, si paternel, que cet homme si paternel, accusé d'inceste, en fait, se découvre à moi sous ce jour-là, eh bien, a réveillé mes démons profonds, et donc c'est la question du père qui occupe l'intégralité de ce texte. C'est un livre des fantômes, de la résurrection des fantômes. Et ce qui est fou, c'est qu'il m'a fallu 20 ans pour faire le deuil de mon père. Et c'est ce que j'ai compris en écrivant. Tant que je n'avais pas écrit ce texte, tant que je n'avais pas vécu et revécu par l'écriture ce qui s'était passé effectivement lorsque j'avais 14 ans, eh ben, ma foi, je n'avais pas compris ce que j'avais vécu, ou je l'avais laissé dans une petite boîte fermée dans un tiroir. Et là, la boîte s'est rouverte et c'était le moment pour moi d'affronter effectivement les spectres, les revenants, ceux qui reviennent toujours. Et ce livre est un livre aussi du coup de la renaissance à l'écriture, puisqu'il y a tout un développement sur l'étymologie du mot père en hébreu qui me fascine totalement, qui est la première lettre de l'alphabet. Donc le père est celui qui ouvre le dictionnaire d'une certaine manière, celui qui ouvre aux mots, qui ouvre au langage, qui incarne, on le sait, dans la psychanalyse, la loi avec un grand L, l'autorité avec un grand A, mais qui, du coup, en fait, nous permet d'accéder à l'esprit. Et c'était ça aussi qui, en fait, s'est joué pour moi lors de cette année de traversée du chagrin.
Il y a aussi dans votre livre, Marion, pour votre héroïne, une blessure très ancienne. J'y faisais allusion tout à l'heure. La maman de votre héroïne, elle a dit, elle a lâché à une amie quand l'héroïne était petite, je ne pourrai jamais lui apporter tout l'amour dont elle a besoin. C'est une phrase qui reste. Et en quoi est-ce que cette phrase, pourquoi est-ce qu'elle revient à ce moment-là de la vie? Et on comprend que c'est pas la maternité qui rapproche la fille de la mère. C'est autre chose.
Oui, je pense que c'est une phrase qui expliquait vraiment cette soif d'absolu qu'on retrouve chez cette héroïne, comme si depuis qu'elle était toute petite, elle cherchait à combler quelque chose, un manque, un vide. Je pense que ça peut passer par la quête de l'amour. J'aimais l'idée de cette maman, de cette mère qui a tout de suite compris que sa fille ne serait pas heureuse ou qu'en tout cas ça serait très compliqué parce qu'il manquera toujours quelque chose. Et je trouvais que ça expliquait très bien aussi la fuite en avant de cette femme, sa quête permanente. Et je pense qu'elle se trompe justement dans sa quête. Il y a vraiment cette histoire de quête de plaisir pour essayer de remplir. Donc elle est vraiment dans cette attitude, dans cette posture de consommation, de consommation, de surconsommation, de sexe, de ce qui peut lui faire du bien. Mais je pense qu'au début de l'histoire, on la retrouve, on la rencontre. Elle est dans la montagne, dans un endroit très vide, où elle s'est vraiment isolée de son quotidien, isolée de sa famille. Et ses premiers émois, en fait, les premiers élans par lesquels elle est traversée, sont ceux que lui donne la plénitude de la nature autour d'elle, celle de la montagne, celle du lac. Et c'est comme si elle touchait à un début d'absolu de quelque chose qu'elle va essayer de retrouver à travers cet homme et le sexe. Mais il y a quand même un retour quand même à l'essentiel, comme s'il fallait peut-être qu'elle revienne à une plus petite version d'elle-même. Il y a quelque chose de beaucoup plus lié à son environnement pour peut-être essayer de combler ce vide initial. Mais je pense que cette soif, elle est inextinguible. Je pense qu'elle ne peut pas l'assouvir.
Et curieusement, la plénitude, elle se trouve dans cette solitude pour elle, et pas du tout dans l'assouvissement du désir en plaisir.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu l'impression que ce désir qui, à la base, était comme une porte ouverte sur un nouvel univers et un univers de liberté et de sensations pures, dans le sens pure sensation, finalement se trouvait être une deuxième façon pour elle d'être aliénée. Elle est toujours dépendante de quelque chose, dépendante de quelqu'un d'autre, dépendante de ses fantasmes. Et tout ça, c'est délétère, en fait. Ça ne nourrit rien en elle, ça ne fait que creuser le trou. Alors que dans cette solitude où, comme on disait tout à l'heure, elle a envie de retrouver ce corps qui n'appartient à personne finalement, et de pouvoir exister seule, sans connexion, sans miroir, sans reflet, dans ces cas-là, elle retrouve, ouais, cette espèce d'apaisement.
Chez Emma, il y a peut-être que le bonheur, c'était de se distraire de la monotonie par le plaisir. On est au début du livre, hein. Quand vous dites ça, est-ce que c'est un peu triste quand même, non? Le bonheur, c'est de se distraire de la monotonie par le plaisir.
Je sais pas que c'est gay. C'est le genre de constatation qui parfois me prennent quand j'essaie d'être un petit peu pragmatique. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le concevais à cette époque-là. C'est-à-dire, j'avais l'impression que ma vie c'était réduite dans des proportions qui ne me satisfaisaient absolument pas. Enfin, vous savez comment c'est la vie avec un petit enfant. Tout est réglé comme du papier à musique. La place pour la fantaisie, pour l'imprévu, pour ce qui finalement vous fait vous sentir vivant, c'est vraiment plus rien. Et j'avais des moments où je me disais, mais ça peut pas être plus que ça, ma vie. Il faut absolument que ce soit autre chose. Et bien sûr que à ce moment-là, les rencontres, la sensation de tomber amoureuse, sont des manières de vous distraire à assez bas frais finalement. Enfin, à bas frais. Faut voir dans quelle mesure.
Comment écrivez-vous bas frais d'ailleurs, mais
disons que c'était la solution de facilité que j'avais trouvée, mais que du reste j'ai toujours trouvé pour n'importe quelle problématique qui m'assaille. Ma solution, c'est toujours ça, c'est toujours de tomber amoureuse. Voilà, mais c'est pour ça que je suis écrivain et pas psychothérapeute, par exemple.
On imagine que vous avez trouvé une solution parce que vous avez fait un deuxième enfant.
Oui, j'ai fait un deuxième enfant. Donc je dis quand même des choses positives sur mon état à l'époque. Et je dis en tout cas quelque chose, c'est que rien n'est irréversible. C'est que finalement, pour moi, la maternité, enfin en tout cas ce changement complet de température où d'un seul coup je me retrouve avec un enfant alors que je ne vivais avant que pour moi, que pour les livres que j'écrivais, que pour ces petits frissons que je m'offrais entre deux portes. Brusquement m'endort en fait complètement mais la vie est une succession constante de bas et puis de très très haut, et les petits très très hauts que je trouve à ce moment-là sont ces hommes que je rencontre et qui m'inspirent quelque chose, en l'occurrence l'impression d'être nouvelle, l'impression de n'avoir jamais été regardée par ces yeux-là, l'impression de n'avoir jamais vu cet homme-là, de ne pas savoir ce que cet homme-là cherche chez moi, ni ce que je cherche chez lui.
Surtout qu'il ne sait pas il ne connaît pas la mère que vous êtes aussi. Il vous voit en tant que femme purement érotique.
C'est-à-dire que, bien sûr, on ne peut pas exiger la même chose du père de ses enfants et d'un homme qui ne vous a jamais vu. J'essaye de faire quand même un minimum la part des choses, mais je trouve qu'il y a quand même des choses positives sur le couple dans ce livre.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est tout à fait cette phrase-là qui était pour vous taquiner un peu, est tout à fait démentie par un élan. Quand je dis que c'était drôle, c'est qu'il n'y a rien de désespéré, en fait, dans votre livre. C'est quelque chose, il y a un élan vital qui, de toute façon, reste plus fort.
Mais il y a quand même quelque chose de désespéré. Je pense que je suis profondément quelqu'un d'assez mélancolique et d'assez désespéré. Mais là où les choses sont quand même bien faites, c'est que les enfants vous éloignent de cette désespérance. Parce que les enfants vous tiennent occupés. Et quand votre tête est occupée comme ça, et on sait que les enfants, quand ils sont petits, c'est vraiment le règne de l'immédiateté. Vous n'avez pas le moyen de dire « Attends deux secondes, d'abord je pense à quel point je suis malheureuse et à quel point ma vie est limitée. » Donc les enfants vous forcent finalement à aller de l'avant et puis à devenir mieux que vous-même. Et puis les enfants sont une école merveilleuse de douceur et de patience. Et finalement, on devient quelqu'un de moins peut-être absorbé par soi. Mais c'est... Ça n'est pas un livre, effectivement, qui est que désespéré. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un besoin très fort de partir de chez moi. Et par chez moi, j'entends ma famille, toutes les attaches que je pouvais avoir. Mais c'est justement parce que j'ai pu en partir que j'ai eu ce besoin aussi d'y revenir. Et cette compréhension que finalement, le bonheur, c'est peut-être pas que se distraire de la monotonie par le plaisir. C'est peut-être juste là, toujours sous nos yeux. Mais il y a des moments où on n'a pas envie de le voir parce que c'est trop simple, parce que quelque part, si on est heureux, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Rien, on n'a plus rien à attendre de cette existence. Donc, voilà.
Le deuxième a fait l'effet du premier ou pas tout à fait ?
Non, le deuxième, c'est 10 fois plus facile. Non, vraiment, le deuxième, c'est... Vous parlez d'enfants, là. Hein. Pas de livre.
Vous parlez de quoi ?
Moi, je parle d'enfants.
Oui, oui.
Non, non,
oui.
Non, le deuxième... Bah, disons que le non, mal est déjà fait. Non, ouais. Mais vous avez un enfant, vous savez à quoi vous attendre. Donc, le deuxième, c'est... Bah, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus instinctif, je trouve. Que le premier où vraiment vous apprenez tout. Donc c'est pas étonnant non plus que ce soit une telle épreuve pour un couple, un premier enfant, parce que chacun prend ses marques et je crois qu'au final il n'y a pas de rancœur véritable à avoir, sauf peut-être dans la manière dont on organise la parentalité, la manière dont finalement les mères sont toujours investies de la plus grosse partie du boulot. Ça j'ai beaucoup de choses à en dire, mais il faudrait une autre rencontre.
Ça c'est oui c'est ça c'est la charge mentale. On va rester sur le sujet avec une expression que j'ai trouvée vraiment très très fine. C'est dans le livre de Caroline, c'est pas quelque chose qu'on vous dit à vous, c'est quelque chose qu'on dit à un ami comédien. Et une phrase d'Ariane Mnouchkine qui dit à un de vos amis qui apparemment n'est pas dans le jeu, dans une interprétation, elle lui dit il faut que tu changes d'erreur.
Ouais, c'est magnifique. Changer d'erreur. Je dois dire que la première fois que j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait l'effet d'un coup de foudre sur la tête et j'étais électrifiée par cette phrase. Changer d'erreur, quand on prend le temps de réfléchir vraiment à ce que ça veut dire. Nos vies sont des erreurs, des errances, on passe notre temps à rater les choses, à essayer parfois, à réussir. C'est un grand chaos perpétuel. Mais du coup, ça nous donne une liberté incroyable. Ce chemin-là qui est chaotique... peut valoir un autre chemin chaotique, donc on a le droit d'y aller, et on peut prendre ce risque. Et si on se plante, c'est pas très grave, il y aura d'autres chemins aussi chaotiques qui s'offriront à nous, et dont on pourra s'emparer, et dont on pourra faire quelque chose. Et c'est une manière de dire aussi, quand on joue, il faut jouer pleinement, donc c'est jouer quoi ? Jouer sa peau, jouer la vie, jouer au théâtre, jouer ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose, en fait, de l'engagement dans l'existence, que Ariane Mnouchkine, avec sa puissance et son intelligence de feu, évidemment, avait saisi, et qui, pour moi, est très fécond au sens intellectuel. Et je dois dire que c'est une phrase qui m'accompagne, moi. Change d'erreur. Dans les moments de doute, dans les moments un petit peu où je ne sais pas exactement s'il faut que je fasse ci ou ça, mais change d'erreur, bah ouais, ça veut dire vas-y, autorise-toi.
C'est une phrase que vous comprenez ? Comment, vous deux ? Emma, Marion ?
Non,
Non, mais je trouve que c'est un très bon. Oui, c'est effectivement une très bonne, un très bon groupement de mots. Changer d'erreur, mais ça fait penser à la citation de Beckett que je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de recomposer parce que ça. Mais il s'agissait de rater et puis de recommencer et puis finalement de rater mieux parce que c'est toujours un ratage de toute façon. Moi, je trouve que ça me correspond tout à fait, étant lancée dans une quête qui, je pense, n'aboutira jamais, mais qui me tient très occupée. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, le but ? Est-ce que c'est pas tout simplement de se tenir occupée avec quelque chose qui vraiment vous tient en haleine et dont vous avez l'impression qu'en accédant petit à petit à la solution, vous aidez peut-être d'autres gens avec vous qui sont dans le même cas ? Je crois qu'on est tous perdu complètement dans cette existence, hein, qui est quand même une succession de deuils, de drames, d'échecs. Mais bon, voilà, finalement, on en retire quand même des moments, des moments qui sont absolument miraculeux. Et je crois que, enfin, moi, c'est pour ça que j'ai envie d'écrire aussi. C'est parce que c'est justement, les livres sont des tentatives de rapprocher les gens entre eux. Enfin, en tout cas, de les rapprocher avec cette idée que, on est tous pétris des mêmes problématiques. On a tous ces mêmes drames qui viennent nous perturber à 2h du mat quand on voudrait bien dormir. Et finalement, les livres sont des tentatives d'apporter des petites réponses et une forme de confort à nos frères et sœurs humains, quoi. Je crois.
Vous ressemblez beaucoup à votre livre.
Merci.
Marion ?
Oui, ça me parle, parce que j'ai une grande tendance à dire qu'il n'y a jamais de choses mal faites ou qu'il n'y a jamais de... J'insupporte mon mari en disant toujours « ce n'est pas grave ». Et parce que je pars du principe que quand je casse quelque chose, quand je rate quelque chose, quand j'oublie quelque chose, ça fait juste partie du chemin, que ce soit pour les toutes petites choses du quotidien comme pour les sujets les plus importants. Et c'est vrai que même en tant que mère, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'essaye de transmettre à mes enfants, qu'il n'y a pas de vraie erreur en fait, il y a vraiment juste des façons d'appréhender les choses et de les vivre. Si on part de l'idée, comme disait Emma, qu'on est lancé dans cette grande aventure et que bon, on ne sait pas exactement à quoi ça va nous mener, je pense que justement il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a juste le chemin qu'on prend et on voit les embranchements qu'on a envie de choisir au fur et à mesure.
Alors, on va citer Annie Ernaux, puisqu'en plus, elle est notre prix Nobel de littérature. Vous aviez une écreuve, vous, hein, Caroline, hein, parce qu'elle revient quand même souvent dans votre livre. Et oui. Ça y a un tac, un effet
de situation. J'étais très contente.
Ah, ouais, je comprends. C'est bien joué. En fait, la définition de l'écriture pour Annie Ernaux, c'est beaucoup de choses, mais notamment découvrir en écrivant ce qu'il est impossible de découvrir par un autre moyen, découvrir quelque chose qui n'est pas là avant l'écriture. Alors, est-ce que là, ça ressemble aussi à la définition de la psychanalyse ? J'y vais avec des gros, gros sabots pour que vous me disiez, mais non, ça n'a rien à voir. Donc, comment vous percevez cette phrase qui donne l'impression qu'en fait, vous êtes des drogués, puisque vous devenez complètement dépendant, aliéné à ce parcours, ce chemin dans l'écriture qui vous amène à développer des choses de vous, qui vous permet encore d'écrire d'autres choses. En fait, c'est cette espèce d'engrenage-là, non ? Vous êtes des filles perdues, finalement,
non ? On est des poupées russes. Peut-être des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a des emboîtements successifs, qu'on part peut-être avec l'idée de la poupée extérieure, et ça, c'est une histoire, une structure narrative, peut-être l'idée qu'il y aura tel type de personnage. Puis finalement, au fur et à mesure, on soulève les différents coffrets des poupées, et puis on arrive à la plus petite, la dernière, le noyau, l'embryon, ce que vous voulez, qui est sans doute... le pourquoi j'écris. Et le jeu pourquoi j'écris est peut-être la question à laquelle on n'arrivera jamais à répondre, parce que c'est une activité totalement insensée, finalement, l'écriture. À chaque fois, moi, je me fais la réflexion, je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans cette solitude, face à cet écran, au lieu d'aller boire des verres avec tes amis, de sortir au cinéma, d'aller faire un restaurant, tu restes assise dans cette grotte, et c'est la chose la plus importante de ton existence. Pourquoi ? Et puis j'ai finalement accepté de ne pas répondre à ce pourquoi aussi et à juste m'occuper du comment. Et moi, ma question aujourd'hui, ce qui m'occupe, c'est comment j'écris, comment je vis, comment j'aime, comment j'échange avec les autres. Mais c'est plus le pourquoi, parce que ça, c'est trop vertigineux, en fait. Et c'est promis, là aussi, à l'échec, à l'errance, à l'erreur. Alors que le comment, ça nous met en action. À nouveau, le corps est sollicité dans le comment. Et c'est ça qui est merveilleux dans le fait de pouvoir écrire et d'avoir cette chance, en fait, d'être en plus lu derrière par des lecteurs. Voilà.
C'est marrant parce que moi, je me suis jamais posé la question de pourquoi j'écris. J'ai toujours écrit et j'ai toujours compris pourquoi j'écrivais. Donc ça me fait.
Je
trouve ça marrant. Et justement, ça me faisait penser à Annie Arnaud qui dit qu'elle a l'impression de pas, pareil, je vais faire comme Emma, je ne vais pas aller au bout d'une mauvaise citation, mais que vivre les choses, c'était pas suffisant et qu'il fallait les écrire pour les vivre vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti depuis toujours, que la vraie vie, c'est pas assez. En fait, il manque une autre dimension derrière. Et non seulement écrire, ça me permet de revivre les choses, ça me permet de les revivre de façon plus forte et plus puissante. Ça me permet aussi de les réécrire quand la réalité n'était pas exactement au contour de mes désirs. Et j'aime cette idée que c'est à la fois un instrument, un outil de connaissance de soi, des autres, mais aussi un outil de liberté folle, de pouvoir réinterpréter ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et de pouvoir aller toujours plus loin. J'ai l'impression d'avoir 1000 vies.
Ce que vit aussi le lecteur en vous lisant. J'ai 1000 vies. Emma, quand vous parliez du souvenir, parce que j'ai beaucoup insisté sur ce motif récurrent dans ce livre, dans La Conduite, vous parlez quand même, on a l'impression que vous parlez comme un écrivain, c'est l'écrivain qui a besoin de se faire du souvenir, non ? Est-ce que vous vivez pour ensuite réinspecter ce qui a été vécu par l'écriture ? Ce que vient de dire Marion à peu près.
Écoutez, moi je me contente de vivre et puis ensuite quand je repense à ce que j'ai vécu, je me dis qu'il y a des choses qui méritent d'être écrites parce que j'en ai tiré quelque chose, soit j'en ai appris quelque chose, en tout cas j'ai eu l'impression d'en apprendre quelque chose, ou alors ça m'a procuré un moment de plaisir ou un moment d'intensité qui fait que j'ai envie de pouvoir revivre ce moment finalement éternellement. Mais il y a quelque chose qui est masturbatoire dans l'écriture, enfin moi c'est comme ça que je le conçois, sinon je passerais pas comme ça des heures à vouloir absolument réécrire un rendez-vous que j'ai pu avoir avec n'importe quel cornichon extrait de ma biographie affective et qui souvent d'ailleurs dans le sens où ils sont complètement interchangeables. Alors loin de moi l'idée de donner tort à Annie Arnaud, j'oserais pas, mais moi je crois pas que l'écriture fait apparaître quelque chose qui n'existait pas. Enfin, en tout cas c'est pas pour ça que j'écris. Moi j'écris parce que je sens qu'autour de moi il y a des espèces de puissances mystérieuses auxquelles je comprends pas grand chose. Je crois qu'elles sont déjà là et que j'écris parce que je voudrais essayer de les immobiliser pour les comprendre. Et du reste je n'ai jamais conçu l'écriture comme une espèce de sacerdoce à qui vous tombe dessus à la naissance, vous êtes écrivain, c'est une façon particulière de vivre, de réfléchir, ça fait de vous quelqu'un de particulier. Je crois pas, je pense que c'est une façon, c'est une vigie qu'on a sur le monde, c'est une façon qu'on a de voir le monde, mais c'est pas en tout cas quelque chose que je qualifierais d'une addiction ou d'un besoin fondamental, quoi. Moi, je préfère faire 1000 fois autre chose qu'écrire. Enfin, je veux dire, j'écris pas énormément, j'écris quand j'ai de l'inspiration. Mais je me sens pas le besoin de performer, je sais pas, une espèce de vocation qui me serait tombée dessus, pourquoi moi et de la même manière, je ne vis pas, enfin, je me force pas à faire des choses pour pouvoir les écrire après. Au contraire, je trouve que la vie quotidienne, dans sa banalité, est souvent d'une poésie extrême et souvent d'une inventivité. Vous mettriez ça dans un livre de fiction pure, on ne vous croirait pas. La réalité est beaucoup plus forte que la fiction. Donc, dans ce sens-là, je sais qu'à un moment dans mon livre, je dis « vivre pour écrire », mais ce n'est pas exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire, je pense que parfois, on est frappé par la banalité ou la médiocrité de notre existence, mais que le fait même de réaliser ça vous permet d'en faire des romans. Je crois que n'importe quelle existence humaine mériterait plusieurs romans, parce que c'est le partage d'une condition, d'une expérience humaine qui quelque part nous terrifie tous, enfin qui est pour nous tous une problématique absolument abominable.
Est-ce qu'on peut pas considérer aussi que sans écrire, vivre sa vie, c'est déjà accomplir une œuvre ?
Ah bah si, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fout là ? Non, mais bien sûr, évidemment. Mais je crois que dans la volonté d'écriture, il y a peut-être aussi, enfin, ça encore, il faudrait encore en parler des heures, mais Il y a une volonté peut-être de fixer voilà, ce qu'on a fait pendant cette vie, qu'est-ce qu'on a essayé d'en faire, qu'est-ce qu'on a essayé d'en tirer, qu'est-ce qu'on voudrait en laisser comme souvenir aux autres. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement narcissique dans l'écriture, je crois. Hein. C'est très noble, mais c'est aussi très, très égoïste.
Enfin, je pense.
Ouais. Ouais, c'est comme une suspension, l'écriture. Moi, en tout cas, c'est un peu ce que je ressens dans ce temps chronologique qui nous avale, qui défile, qui est absolument dévorateur. Le temps de l'écriture est un moment qui cristallise le présent. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre qui fait que l'horloge traditionnelle s'arrête. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois on commence à écrire et on y est encore 5 heures après et on ne s'est pas rendu compte que le temps était passé comme ça. Et que ça, ça donne un sentiment, alors peut-être pas forcément de plénitude parce que ce n'est pas toujours si évident que ça, mais qu'on a une petite maîtrise à un moment donné sur quelque chose qui par ailleurs nous dépasse totalement. Donc ça a à voir avec le sentiment de puissance, l'écriture, c'est évident dans la réalisation, d'un moi narcissique, d'un ego en souffrance, d'une faille, tout ce qu'on veut, mais oui, il y a quelque chose quand même qui donne l'illusion, mais c'est une bonne illusion, on ne vit que dans les illusions et pour les illusions, qui nous donne l'illusion de contrôler peut-être un peu le monde et nos sentiments.
Marion ?
Oui, j'ai envie de rebondir sur ce concept un peu de jouissance dans l'écriture que tu abordais un peu, Emma. C'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti dans cette façon. On parlait tout à l'heure de fantasme et de différence entre le désir qui est vraiment fixé sur un objet ou alors qui n'est qu'un fantasme d'une certaine version du réel. J'ai eu l'impression que dans la façon qu'on a de vivre l'écriture, on peut vraiment ressentir comme une réalité altérée, différente. On est dans cet état un peu d'hypnose. On se plonge dans un texte ou dans une... C'est d'ailleurs un état que je vis en étant lectrice. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'écrire pour le ressentir. Mais la forme du récit, le fait de mettre des mots, de leur donner une certaine direction... Quand on le fait, quand on l'écrit, moi, je trouve ça jouissif. Et c'est une jouissance que je retrouve aussi dans la lecture. Voilà.
Mais voilà le pont parfait vers vous. Pour terminer cette rencontre, je vais vous laisser le mot de la fin, Marion. Justement, Marion, c'est un premier roman, ça ne sera pas le dernier. Marion Roucheux, Les Chères Impatientes, publié chez Belfond. Caroline Laurent, Ce que nous désirons le plus, publié aux Escales. Et puis Emma Becker, L'Inconduite, avec une plus jolie couverture que moi j'ai enlevée pour les besoins du transport, chez Albin Michel. Vous l'aurez compris, certes on a démarré sur le désir, mais enfin ce qui a tendu la rencontre et ce qui tend vos livres, c'est d'abord une magnifique intensité. Merci à toutes les trois, on vous retrouve en dédicace et bon début de salon à vous tous.
Merci.
Merci.